Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour Pauline de Malherbe.
Vous êtes le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Le budget, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est vous qui l'avez aussi examiné, travaillé, décortiqué. Il y a eu deux 49-3 et il y aura deux motions de censure. Deux motions de censure LFI, d'autres également du Rassemblement national. Sauf qu'à la fin, bah c'est quand même le 49-3 qui gagne. On connaît déjà le scénario. Il y a zéro chance que votre motion de censure ne passe. Du coup, c'est quoi ? C'est que de la posture.
C'est la démocratie qui perd aussi, quand même. Parce que je vous rappelle que les prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est de voter, notamment voter le budget. Donc, il va y avoir un budget de la France qui ne va pas être voté. C'est quand même, dans n'importe quelle démocratie au monde, je me demande s'il y a des exemples correspondant où on peut imposer un budget à un Parlement, c'est-à-dire à la représentation nationale. Donc ça, je pense que c'est un échec global pour la démocratie. Et puis en plus, c'est fait de telle manière, c'est-à-dire que on a d'habitude le 49-3, la Ve République, globalement...
C'est pas la première fois qu'on utilise le 49-3.
Bien sûr, mais sauf que si vous regardez un peu l'histoire, en général, c'est quand vous avez une majorité, une partie est un peu frondeuse, quoi. Donc vous imposez ça à votre majorité. Là, c'est parce qu'on a un gouvernement qui est minoritaire. Et je ne vois pas très bien comment tout ça peut durer très longtemps.
Alors, comment ça peut durer très longtemps ? On va même regarder un peu plus loin. Mais enfin, si on regarde ne serait-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est cet après-midi que vos motions de censure vont être discutées, il va y avoir un débat, enfin un faux débat, puisque en effet, on le sait très bien, à la fin, de toute façon, votre motion ne sera pas votée. Vous disiez c'est un échec pour la démocratie. Mais est-ce que si le budget n'était pas adopté, ce ne serait pas un échec pour la France ? On regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ils n'ont pas de 49-3. Oui. Ils se retrouvent parfois, pendant des semaines, voire des mois, à ne pas pouvoir payer leurs fonctionnaires.
En tout cas, déjà, regardons un peu la question du calendrier. On a jusqu'au 30 décembre pour voter le budget. Donc on a le temps. On n'est pas aux pièces, comme on dit. Le gouvernement aurait pu se dire, entériner ce qu'il avait dit au printemps et qu'il a oublié depuis. C'est-à-dire, on est minoritaire, enfin en tout cas on est minoritaire. On a une majorité relative. Moi je dis qu'ils sont minoritaires. On a une majorité relative. Et à partir de là, on cherche des coalitions. On les cherche, plutôt du côté républicain. Je vois pas très bien quand.
Quand ils vous ont reçu les uns les autres.
Ils nous ont reçus pour à peu près appliquer le même budget à quelques détails près. Je vous donne un exemple.
Ils n'ont pas joué le jeu du dialogue.
Non, pas. Ils ont fait un faux dialogue, une communication. Moi, j'y étais. J'ai dit OK. Au moins, on a eu les informations. Ça s'est bien passé. On a eu du thé, des petits fours, etc. Mais globalement, à l'arrivée, il n'y avait pas de changement. Bon. Et pendant le budget, il y a eu pas mal d'amendements de l'opposition. Ils en ont trié une petite partie. Majoritairement d'ailleurs, ils ont pris des amendements dans la majorité. Aucun de la France insoumise et aucun amendement marquant, c'est-à-dire qui ont un impact financier de la NUPES. Voilà, la plupart, plus de la moitié, même presque les deux tiers, je crois, viennent de la majorité du gouvernement. Le reste, c'est les Républicains, le petit groupe Liot, qui est un petit groupe centriste, mais très très peu de la NUPES en été.
Et pour vous, je reviens sur vos mots, parce qu'ils sont quand même assez forts. Pour vous, c'est un échec de la démocratie. Vous considérez...
Moi, je ne trouve pas que ce soit fort.
Qu'aujourd'hui, la France bascule dans autre chose, qui n'est plus une forme de démocratie.
En tout cas, c'est un problème démocratique d'imposer le budget à l'Assemblée nationale. Ça, on peut le prendre par tous les bouts, c'est un problème démocratique. Mais je crois que, vous dites, ils sont assez forts. Moi, je crois que ça reflète une faiblesse de ce gouvernement. Je pense qu'on a affaire à un gouvernement faible, qui est obligé d'utiliser ce principe parce qu'il n'a pas de majorité, et qui, du coup, se retrouve dans des situations un peu bizarres. Regardez, par exemple, le PLFSS.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Faisons attention aux acronymes. Ce budget, pourquoi ils ont imposé le 49-3? Il n'y avait quasiment aucun député de la majorité.
C'est le deuxième 49-3 brandi par la Première ministre.
Une matinée, quasiment aucun député de la majorité présent dans l'hémicycle. Battu et rebattu. Alors, moi, j'ai supposé deux solutions. Soit le gouvernement a lui-même organisé ça pour pouvoir donner le prétexte de dire, vous voyez, on n'y arrive pas, donc on va passer le 49-3. Soit... c'est une démobilisation de la part des députés de la majorité. Dans tous les cas, c'est une crise politique. Dans les deux cas, c'est une crise politique.
Attendez, ce que vous nous dites, c'est carrément soit ils ont fait exprès, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé à leurs députés de ne pas venir dans l'hémicycle pour que de toute façon, ils soient mis en échec et qu'ils disent, vous voyez, on n'a pas d'autre choix que de prendre le 49-3. Soit, et c'est plus grave à long terme pour le gouvernement, vous ressentez sur les bancs de la majorité un découragement et des députés qui viennent même plus soutenir leur propre gouvernement.
Puis on a aussi autre chose. Il y a ça, puis vous avez aussi des députés qui ne sont pas d'accord. Je vous fais remarquer que le fameux amendement de Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe du MoDem, qui présente un amendement sur la taxation des super-dividendes, qui passe. avec des voix du MoDem, des voix de la majorité.
Je voudrais préciser pour que les gens comprennent bien, là pour le coup, c'est pas quelqu'un de l'opposition, hein. Non, c'est non, donc un député de un des piliers de la majorité qui a fait passer un amendement pour taxer les super dividendes et qui a pour ce faire obtenu des voix de plusieurs députés de la majorité. Ça venait pas de l'opposition.
Ah bah, on l'a voté. On était d'accord. Donc on l'a voté. Le Rassemblement national l'a voté. Le MoDem l'a voté. Il y a eu 19
donc
députés
là,
de la majorité.
Donc là, on peut dire qu'il y a une forme de coalition.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous commencez à avoir des députés qui votent sur des amendements qui sont revendiqués et demandés également par l'opposition de gauche, bah, vous voyez bien que vous n'êtes plus tellement sûr de votre majorité. Et je crois que ce gouvernement, il est dans cette situation. Donc c'est pour ça que je dis, en réalité, la crise, elle est aussi politique. Et à l'écrit
crise politique, d'abord pour le gouvernement. Si on regarde quand même dans le détail des amendements qui sont encore discutés, on ne sait pas de toute façon s'ils seront gardés ou pas, il y en a deux sur lesquels j'aimerais bien vous demander si vous les soutenez. Il y a celui par exemple sur les déserts médicaux. Là, il vient de la majorité, il voudrait imposer aux médecins de s'installer davantage dans les déserts médicaux. Est-ce que ça, vous pourriez le signer, vous ?
On en a voté. Alors, je ne sais pas si celui-là, on l'a voté, parce qu'il y a des différents principes. En gros, on n'est pas trop
celui-là,
d'accord.
Il sera présenté cette semaine. Ouais. Mais vous, ce serait quoi votre solution sur les déserts médicaux?
Nous,
ça revient à nouveau sur le question pédiatrique.
Il faut des corps de fonctionnaires, de médecins, et qui ont leurs études payées, et en échange, pendant plusieurs années, sont tenus d'aller là où on leur dit d'aller. Voilà, c'est la solution qu'on prend. Maintenant, on a vu quelques amendements, notamment venant des Républicains, d'un député qui s'appelle Fabrice Brun, qu'on a fait plusieurs, et essayons de trouver des solutions pour permettre de lutter contre les déserts médicaux qui sont dans les zones rurales, mais qui sont aussi dans des zones très urbaines, comme mon département de la Seine-Saint-Denis. Donc ça va dans le bon sens. Bon, où on est un peu méfiant, c'est quand ça se passe avec des exonérations totales d'impôts, parce que ça, en général, un, vous avez moins de recettes pour l'État, et puis deux, on s'aperçoit qu'il y a un effet où, du coup, on a des endroits où les médecins vont, et puis à côté, ils vont où la situation n'est pas vraiment meilleure, ils vont moins. Donc ça, c'est pas vraiment les solutions. Mais en tout cas, il y a plusieurs amendements.
Voilà des points sur lesquels vous seriez prêt à discuter. Il y a un autre point qui est visiblement dans les tuyaux, qui serait pour accompagner l'emploi des seniors, qui serait l'idée de faire, c'est l'Institut Montaigne qui le propose, mais visiblement avec la bénédiction du gouvernement, l'idée de baisser les cotisations sur l'emploi des seniors pour encourager les entreprises à embaucher des personnes un peu plus âgées. Est-ce que ça, vous pourriez le signer?
Non.
Non, pourquoi?
Parce que
des seniors.
Non, je pense que la solution n'est pas de baisser les cotisations sociales. Pourquoi? Parce que si vous baissez les cotisations sociales, à un moment donné, il vous manque de l'argent pour les retraites, il vous manque de l'argent pour la sécurité sociale, c'est-à-dire tous les mécanismes de protection. Donc, on prend d'un côté, soi-disant pour favoriser l'emploi des seniors, pour prendre de l'autre côté. Moi, je serais plutôt pour faire en sorte que les gens puissent partir à 60 ans à la retraite avec une retraite correcte et qui permettrait d'éviter la situation qu'on a actuellement où beaucoup de seniors ne trouvent plus d'emploi parce qu'on les embauche plus et qui permettrait de recruter des jeunes.
Bon, les 60 ans, c'est pas gagné parce que là, ils sont quand même tous partis pour la retraite, y compris même plus loin si on écoute l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
Mais vous savez, vous abordez une question de fond. Vous savez combien il y a d'argent reversé aux entreprises en France? Il y en a 160 milliards. Dans les 160 milliards,
d'argent reversé, hein,
aux entreprises. Souvent sans condition. C'est ça qu'on... Nous, on n'est pas contre les aides aux entreprises, mais on pense qu'il faut qu'elles soient fléchées, conditionnées sur des critères sociaux et écologiques. 160 milliards. Et c'est en trois tiers. Il y a un tiers, c'est pris sur les cotisations, exonérations de la sécurité sociale. Bon. Et donc, c'est de l'aide de l'État qui pèse sur les comptes sociaux, ce qui est absolument anormal. Les comptes sociaux, normalement, ne servent pas à équilibrer le budget de l'État. Bon. Et donc ça, quand vous faites ça, eh bien, à la fin, vous expliquez que, vous voyez, nos systèmes sociaux sont en déséquilibre, on n'a plus d'argent pour les retraites. Donc, il faut arrêter avec ce mécanisme.
Donc, vous n'êtes pas pour redistribuer les cotisations. Vous avez entendu la crise à l'hôpital, j'en disais un mot à l'instant, la crise à la pédiatrie notamment, et le ministre de la Santé qui annonce 150 millions, un plan d'urgence pour l'hôpital, le Pontillet.
J'ai entendu les professionnels qui ont appliqué, qui ont dit, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas en gros une aumône, parce que ça sera pas beaucoup d'argent redistribué, mais c'est des lits, du matériel, etc. Voilà, c'est ça qu'ils disent.
Pour vous, c'est une aumône, les 150 millions,
vous allez voir, ça fait pas beaucoup d'augmentation par personne. Il faut toujours les prendre hein, quand ils viennent. Mais c'est pas ça qui, par exemple, va permettre au personnel soignant d'être, j'allais dire, atteindre la moyenne de rémunération des pays de l'OCDE. Et à l'inverse, on a toujours un problème, c'est qu'on continue à supprimer des lits dans les hôpitaux, on continue à supprimer du matériel. C'est pour ça que nous, dans notre contre-budget, on prévoit 10 milliards d'euros en urgence.
C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur. Éric Coquerel, vous aviez eu cette marche contre la vie chère qui a eu un succès, franchement, on peut le dire, modéré.
Vous voulez un grand succès, vous voulez dire. Ouais. Vous y étiez, vous ?
Non, j'y étais non, pas, non. D'abord, j'avais le Covid, donc de toute façon,
la question ne se posait
pas. Mais vous savez quoi, Éric Coquerel, moi, mon rôle, c'est pas de manifester. Mon rôle, c'est de vous poser la question. Vous dites gros succès. Honnêtement, alors là, chacun va poser ses chiffres.
140 000 personnes, c'est un grand succès.
140 000 personnes, je vous rappelle que c'est vos chiffres.
Bah peut-être, mais vous, c'est les vôtres.
130 000 personnes selon la police. C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de la police.
Vous savez, comme moi, que les chiffres de la police souvent minorisent l'argent et les manifestations.
Vous savez qu'il y a aussi cette association de médias qui fait ses propres comptes et qui arrive à 29 000, c'est-à-dire même moins que la police.
Qui a été contestée par d'autres médias. Ce que je sais, c'est que c'est la plus grosse mobilisation sur des thèmes sociaux depuis bien longtemps et qui montre qu'il y a la possibilité en France d'avoir des mobilisations de ce type et qu'il y a une contestation forte dans le pays sur la politique
sociale. Et vous en refaites une ? Du coup, vous allez faire ces manifestations ?
Il est possible, c'est en discussion, on va en discuter avec nos partenaires, parce qu'il n'y avait pas que la NUPES, vous savez, il y a des associations, il y avait des syndicats, il y avait d'autres partis politiques, donc on va voir ce que ça donnera.
Vous avez entendu les chiffres pour Kylian Mbappé ?
Vraisemblablement, il y en aura une autre.
Éric Coquerel, donc vraisemblablement, il y en aura une autre, on table sur mi-novembre.
Vraisemblablement, il y en aura une autre.
Kylian Mbappé, alors je sais pas s'il y aura votre manifestation contre la vie chère, mais enfin, on apprend que le contrat avec le PSG, c'est 630 millions d'euros bruts sur 3 ans. Le plus gros contrat jamais signé. Il touche près de 6 millions d'euros par mois, c'est-à-dire en un mois ce que gagne le patron de Total, en un an.
Oui,
hein, donc, hors contrat pub, etc. Vous continuez à soutenir le foot, à vous dire que reste un sport populaire.
Moi, j'ai comme toute personne, j'ai mes contradictions. Donc, le foot est un sport populaire, pratiqué dans le monde entier. Voilà. Donc, que ce soit de manière organisée ou pas. Deuxièmement, il y a le foot de haut niveau. Bah, moi, j'admets prendre du plaisir à voir des matchs de football de haut niveau. J'admets à prendre du plaisir à voir l'équipe de France gagner. J'admets à prendre du plaisir à voir Benzema Ballon d'Or, etc. Et en même temps, eh bien, on peut expliquer que c'est une industrie, une économie, qui a adopté à peu près toutes les règles du capitalisme le plus sauvage, notamment depuis l'arrêt Bosman, vous savez, où on peut échanger les joueurs comme ça au niveau une espèce de libre-échange, et que bon, voilà, c'est des bulles spéculatives que moi, par ailleurs, je condamne, mais ça n'empêche pas d'apprécier Mbappé.
Vous continuez à apprécier...
Sur le salaire, je vais y revenir. Ouais. La grosse différence entre le salaire que touche Mbappé et le salaire que tout, enfin le salaire plus les dividendes, parce qu'il est à 6 milliards plus 1 milliard de dividendes, le patron de Total.
C'est millions quand même.
Millions, pardon, millions.
C'est déjà beaucoup, hein,
c'est déjà beaucoup. Mais la grosse différence, c'est que l'argent que lui prend, il le prend sur une plus-value, c'est-à-dire ce que l'entreprise réalise comme bénéfice. Et donc, il prend une part qui ne va pas dans les salaires. C'est-à-dire qu'autrement
dit, c'est plus acceptable chez Mbappé que chez Pouyanné.
Structurellement, ça pose pas les mêmes questions. Mbappé, il prend pas à des salariés du club. Il n'exploite pas des salariés du club. À différence du patron de Total, lui, ce qu'il va prendre comme et s'augmenter de 50% un an comme il l'a fait, inévitablement, ça prend sur
les
gens qui sont salariés et à qui il refuse une augmentation de 10%.
Il fait aussi avancer l'entreprise.
Oui, comme les salariés. Vous savez, faites un pari. Pendant 2 semaines, tous les salariés de Total s'arrêtent de travailler. Et pendant 2 semaines, monsieur le patron de Total, par exemple, à ce que vous avez eu le Covid. L'entreprise Total, elle continue à fonctionner si les salariés continuent à travailler, mais s'ils s'arrêtent de travailler, ça fonctionne.
Ce que vous voulez dire, c'est que si les ouvriers qui font fonctionner l'entreprise
s'arrêtent de travailler, l'entreprise s'arrête. Ouais. Si le patron de Total soit est malade pendant 2 semaines, soit est changé par un autre patron, je vous assure que l'entreprise continue à fonctionner.
Enfin, là, je trouve que c'est pas tout à fait de bonne foi, parce que dans ces cas-là, vous dites d'un côté, vous arrêtez des centaines de milliers de personnes d'un coup, et de l'autre, une seule personne. Si vous arrêtez un ouvrier.
Qui crée de la richesse à Total.
Non, mais Éric Coquerel, si vous arrêtez un ouvrier et vous arrêtez un patron, la boîte s'arrête pas.
Je vous réponds sur le fait de dire, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui gagne 50% en plus, qui est payé 6 millions d'euros dans l'année, par rapport à des gens qui demandent 10% d'augmentation de salaire, ce qu'ils n'ont pas eu pendant des années. Je vous dis que si ces gens-là, eux, s'arrête, et on l'a vu avec les raffineries, ça s'arrête, alors que si le patron de Total s'arrête, il est remplacé par un autre, ça continue.
Vous regarderez quand même la Coupe du Monde, Éric Coquerel ?
Eh ben, je m'interroge, parce que le Qatar, ça me pose un sacré problème. Voilà, c'est un problème cornélien, parce que j'adore voir les matchs de l'équipe de France, ou les autres grands matchs, mais le Qatar, ça passe mal. Ça passe mal pour les salariés, les employés au Qatar qui ont été employés comme des esclaves et qui sont morts, vous le savez, par milliers sur les stades. Le problème écologique que ça pose, plus un régime qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas une démocratie.
Éric Coquerel, il y a Lola qui sera enterrée aujourd'hui. Vous vous êtes peu exprimé à la NUPES. Est-ce que vous estimez que le drame de Lola, c'est une affaire familiale, dramatique, mais intime ou personnelle, ou est-ce que vous considérez que c'est un drame national ?
C'est un drame national. Mais un drame national ne veut pas dire récupération politique.
C'est de la récupération politique pour vous
fait,
de...
Ce qui a été fait, oui. Enfin, écoutez...
Non, mais est-ce que les questions globales qui ont été, y compris quand on voit Olivier Véran hier, qui développe sur les OQTF, c'est-à-dire ces obligations de quitter le territoire...
C'est indécent. Excusez-moi, c'est indécent. Mais oui, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que les gens qui utilisent, avant même que cette jeune femme soit enterrée, alors que les parents demandent qu'aucune récupération, aucun mot politique ne soit mis sur leur douleur, est-ce que vous croyez que les gens qui utilisent ça pensent à Lola et à ses parents, ou ils pensent à la récupération et à l'idéologie qu'ils véhiculent derrière ça, à votre avis? Quelle est la réponse? La réponse est toute trouvée.
Ça paraît assez évident bien. Là-dessus, mais Éric Coquerel, il y a deux questions. Il y a ce que vous dites sur effectivement les manifestations qui ont pu avoir lieu, les achats de noms de domaine, tout ça qui donne vraiment le sentiment de quelque chose d'extrêmement nauséabond. Il y a la question ensuite plus politique de savoir, est-ce que le drame aurait pu être éviter? Est-ce que si la personne qui ne devait pas être sur le territoire et qui y était et qui a commis ce drame affreux avait été renvoyée dans son pays? Bien sûr que ce sont des scénarios, mais ça pose aussi la question de l'application des OQTF.
Michel Fourniret, il est ardennais menuisier. Est-ce que vous pensez qu'il est tueur en série avec des caractéristiques qui sont...
Non, mais sur Michel Fourniret, il y aurait une autre question qui est la question de la récidive, par exemple.
Est-ce que vous pensez que ces problèmes... Est-ce qu'il est menuisier ardennais ou c'est parce qu'il a des problèmes psychiatriques qui expliquent la tueur série? Jacques Ranson, il était carriériste. Pensez que c'est son métier qui l'explique? Donc, c'est pas le fait d'être OQTF.
Par exemple, quand vous avez un crime qui est commis.
Laissez-moi terminer. C'est pas le fait d'être OQTF qui explique pourquoi vous êtes dans cette situation et vous avez un profil de tueur en série. Voilà. C'est parce que vous avez des problèmes psychiatriques.
Quand vous avez un criminel qui est criminel, par exemple, multirécidiviste, quand il y a un drame, souvent, la France repose la question des multirécidivistes et de comment faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pose à chaque fois une question.
Ça n'a aucun rapport avec le statut de la personne. Voilà. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si, je veux dire, vous savez, comme moi, il y a eu Lassana Bathily, sans papier, qui sauve des gens les plus cachés. Est-ce que vous pensez qu'il les sauve parce qu'il a du courage ou parce qu'il est sans papier? À votre avis, c'est quoi?
Pour vous, ça n'est qu'une question à un moment de personnalité.
Alors, c'est le problème de personnalité. Par contre, se pose une autre question, mais ça qui est vrai pour toute personne dans des situations précaires, etc., c'est qu'on a un vrai problème, de personnel, de moyens pour la psychiatrie en France pour aller, trouver avant les personnes qui sont dans des situations de ce type. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'a très bien pointé le ministre de la Justice en répondant aux députés républicains et députés à Madame Le Pen quand ils ont posé une question quelques jours après l'assassinat absolument abominable de Lola. Bon, c'est des vraies questions. Pas des questions de récupération politique derrière. Faire à des degrés divers, je ne les mets pas tous sur le même plan.
Mais la question notamment de M. Zemmour. Éric Coquerel, vous êtes visé par une plainte qui a été déposée par une militante de gauche qui s'appelle Sophie Tissier. Elle vous accuse de faits pouvant, selon elle, je la cite, s'apparenter à une agression sexuelle lors d'une soirée de 2014 à Grenoble. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez été écouté?
Est-ce que
vous souhaitez l'être?
Bien sûr, j'ai dit que j'étais disponible pour l'être sans aucun problème. Ça fait plusieurs mois, je le dis. Ça n'a pas changé. J'ai pas plus de commentaires à faire.
Vous sentez bien évidemment que, et j'imagine que c'est pas complètement un hasard que vous répondiez assez peu aux interviews malgré votre statut président de la commission des finances de l'Assemblée.
Je suis là.
Oui, mais on sent que chez vous, mais pas seulement chez vous, chez LFI, il y a un malaise désormais autour de cette question-là, parce qu'il n'y a pas que vous, parce qu'il y a
les affaires.
Il n'y a pas d'affaires pour vous.
J'ai tout dit sur cette situation, notamment pendant plus d'une heure sur vos antennes, si vous vous souvenez bien. Voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire, j'ai le dit, je suis à disposition de la police, si elle estime nécessaire.
Et est-ce que vous partagez quand même les mots de Julien Bayou, quand Julien Bayou dit qu'il est confronté à des questions qui, pour lui, sont kafkaïennes? Il dit, les féministes répètent que le privé est politique, mais le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiciennes. Est-ce que vous partagez ces mots?
J'ai fait une tribune dans le JDD, je vous propose de vous y référer. Vous verrez que je répète que MeToo est un mouvement nécessaire et que, comme tout mouvement, à certains moments, il peut y avoir aussi des choses qui sont excessives. Voilà. Bon. Sauf que moi, je crois que la situation qui est la mienne, malgré les difficultés qu'on peut ressentir, surtout quand on estime que c'est sans fondement, n'est rien par rapport aux personnes et aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans ce pays, et voire évidemment de plus graves.
Entre-temps, il y a eu l'affaire Adrien Quatennens. En effet, là, pour le coup, il y a une plainte qui a été déposée, il y a des faits qui ont été reconnus, ce qui n'est pas du tout votre cas, puisque vous continuez à dire que pour vous, c'est infondé. Est-ce que vous soutenez Adrien Quatennens? Est-ce que, comme Alexis Corbière, ici, qui dit qu'il faut qu'il puisse revenir...
C'est pas un problème de soutenir. Adrien Quatennens est toujours député, il est en arrêt maladie. Voilà, il a dit certaines choses.
C'est confortable, l'arrêt maladie, là. Il est sûrement très mal.
Imaginez,
ce que je veux dire, c'est que du coup, il n'a pas à revenir sur les bancs de l'Assemblée. Est-ce que s'il allait mieux, et ce qu'on espère pour toute personne, il pourrait revenir.
Je me range derrière l'avis de mon groupe qui souhaite qu'il revienne. J'ai pas plus de commentaires à faire.
Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député de la France insoumise. Merci d'être venu répondre à mes questions sur AMC BFM TV. Il est 8h53.